Chapitre 7. Du bout des doigts. Jérôme s'est levé aux aurores. Il n'a rien bu la veille au soir pour pouvoir s'endormir. Une petite victoire. Il enfile ses baskets et part en direction de la plage. Il lui faut un peu d'entraînement avant de la remettre au défi, la gamine qu'il a humiliée la veille, qui lui a prouvé qu'il était devenu une loque, encore capable de se lever le matin, certes, mais qui en a oublié la raison. En voilà une de raison. Motivante en plus. Retrouver sa forme. Et lui prouver qu'il en a encore sous le capot. Elle a beau avoir des fesses toniques, agréables à regarder quand on court derrière, c'est au moins à sa hauteur qu'il prévoit d'arriver à tenir avant leur retour en Alsace. Julie le regarde partir par la fenêtre. Elle enfile un pantalon et referme doucement la porte sur son petit qui dort encore. Elle essaie de faire le moins de bruit possible pour préparer la table du petit déjeuner. Il reste un fond de Nutella. Elle y plonge une petite cuillère pour se délecter de ce plaisir qu'elle ne s'était pas autorisée depuis Noël de l'année dernière. Elle s'achète un pot tous les ans. Elle aurait pu s'en payer un pot par semaine si elle n'avait pas bu ce soir-là, si elle n'avait pas cédé aux yeux doux que lui faisait le gars à l'autre bout de la pièce, dans le garage de sa copine, à l'occasion d'un anniversaire beaucoup trop arrosé, si elle avait pu poursuivre ses études comme elle l'avait prévu pour être ingénieure en biologie moléculaire. Son prof de terminale avait remué ciel et terre pour lui permettre d'entrer à la fac et même trouver une solution pour les droits d'inscription. Mais pour le reste, tout le reste. Alors elle s'est arrêtée à son bac scientifique avec sa mention « bien » en poche. C'est utile pour être caissière de savoir compter. Mais tout le monde se fiche de sa mention et de ce qu'elle rêvait d'être. La mention « bien » ne suffit pas pour acheter du Nutella. Ça, elle aurait pu s'en payer des palettes entières si elle avait pu continuer ses études. Mais Lulu ne serait pas là. Lulu ne serait pas là. Il est son rêve de biologie moléculaire à lui tout seul. Alors, hein ? Jérôme est revenu essoufflé, en nage, mais un peu plus ouvert que les jours précédents. Un shoot d'endorphine pour lui faire voir la vie sous un autre angle et dérider son visage crispé. Paul est parti chercher du pain avec Ludovic. Une baguette croustillante tous les matins, c'est bon comme du Nutella. On y prend vite goût. Alors les deux ensemble. Jérôme est parti sous la douche. Julie, assise à la table de la cuisine, parcourt le journal local de la veille. S'attarde sur les faits divers et l'actualité quand le portable du médecin vibre sur la table avant d'enclencher sa sonnerie. Julie ne répond pas. Elle n'est pas secrétaire non plus. Cabinet s'affiche à l'écran. Cette remplaçante est une sangsue. La sonnerie s'interrompt et reprend quelques secondes après. Même provenance. Julie décroche. C'est peut-être une urgence. Allô ?
Allô, c'est Caroline. J'ai une procidence du cordon, je fais quoi ? Je fais quoi ?
Crie une voix affolée.
« Je vous passe Jérôme !»
lui répond Julie en bondissant de sa chaise en direction de la salle de bain. L'homme vient de couper l'eau de la douche. Julie se fiche de savoir s'il sera nu ou pas. Elle entre dans la salle de bain sans autre forme de précaution, sentant l'urgence de la situation. Elle ne connaît pas le terme utilisé par la remplaçante, mais elle sait reconnaître une voix effrayée.
« C'est Caroline, elle a une providence du cordon !»
précise Julie en lui tendant le téléphone. Jérôme le saisit en prenant sa serviette d'une main pour s'essuyer le visage et les cheveux et ne pas dégouliner dans le téléphone. Le reste a moins d'importance.
« C'est qui ? Comment c'est arrivé ?»« Madame Imbert, elle est venue pour un épisode de contraction la veille au soir. Je l'ai examinée, j'avais un col ouvert avec une poche bombante et un bébé très haut, en siège. Je l'ai à peine effleurée, elle s'est rompue et j'avais du cordon dans la main. »
En se retournant, il aperçoit Julie qui lui tend le peignoir de son père en le fixant droit dans les yeux pour ne pas regarder ailleurs. Il plonge sa main dans la manche, change le téléphone de main et finit de l'enfiler avant d'aller à la cuisine pour se poster devant la fenêtre qui donne sur la mer. Laissez ses yeux partir dans le vague pour une concentration maximale.
« Et vous avez fait quoi ?»« Je n'ai pas bougé mes doigts. Je repousse les fesses le plus haut possible et je viens d'appeler le SAMU. Ils arrivent. »«
C'est bien. Continuez. Une chance que ce soit un siège. » Jérôme sent deux mains faire le tour de sa taille et lui nouer le peignoir à l'avant. Un vague frisson parcourt sa colonne vertébrale. Il fait signe de la main en guise de remerciement.
« Ils vont mettre des plombes à arriver jusque-là !»
s'inquiète la jeune femme, des hoquets dans la voix. « Ils seront vite là. Vous sentez battre le cordon ?»«
Oui. »
« Quel rythme ?»«
130, 140. »
« Parfait. Dites au mari de préparer une affiche et de la scotcher sur la porte. Urgence médicale, je serai de retour dans l'après-midi. » Caroline éloigne un instant le téléphone de son oreille pour donner les consignes au mari.
Je fais quoi d'autre ?
Vous lui dites d'emmener votre sac parce que vous n'allez pas décoller vos doigts de la dame.
« Je peux faire autre chose ?»
dit-elle, toujours très anxieuse. « Mettez le poing entier, vous aurez plus de force, sans écraser le cordon, évidemment. Et priez. Maintenant, vous allez raccrocher parce que ces gens ont besoin de vous. Et arrêtez de paniquer. La panique est contagieuse et délétère, iatrogène et tout ce que vous voulez d'autre, mais elle n'apporte rien de bon. Vous allez être rassurante, leur dire que pour l'instant ça va, que vous faites le nécessaire, que vous allez devoir rester dans cette position tout le temps du voyage, jusqu'à la salle de césarienne, que le mari devra suivre derrière en voiture comme il peut. Il n'a qu'à prendre la vôtre, comme ça vous pourrez rentrer après. Vous lui dites bien dans quelle maternité vous allez. Vous vous préparez surtout à avoir très mal à la main, au bras.
C'est déjà le cas.
Ça va être pire. Vous n'allez bientôt plus les sentir. Et pourtant, il faudra tenir, parce que vous avez une vie au bout de vos doigts. Alors ce n'est pas le moment de lâcher. Vous allez tenir physiquement et moralement. Parce que ces gens, ils n'ont que vous pour s'accrocher à l'espoir de fêter leur premier Noël à trois. Maintenant, vous allez raccrocher et vous les rassurer. Des contractions ?
Non, rien depuis hier soir.
Ils risquent d'y en avoir maintenant que la poche est rompue. Le SAMU va les arrêter. Le cœur bat encore bien ?
Oui, le bébé semble assez haut.
Si le rythme diminue ? Vous appuyez plus fort avec vos doigts sur la tête pour la refouler. Mettez-la en train de Lennebourg. Ou au moins, placez-lui un gros coussin sous les fesses.
Mais si je ne sens plus mes doigts ?
Je ne veux pas le savoir, vous appuyez, c'est tout. Rappelez-moi dès que vous pouvez. Puis Jérôme raccroche, soucieux.
Elle aurait mieux fait d'avoir une embolie pulmonaire, dit-il à Julie qui le regarde, interrogative.
C'est quoi une providence ?
Une procidence. C'est la poche des os qui se rompt alors qu'il y a un bout de cordon sous l'enfant. Le cordon s'engage dans le col et le bébé le comprime, ça coupe les flux sanguins qui l'alimentent.
Il va mourir ?
Ça dépend de la force de Caroline, c'est qui tout double. Elle y arrive et ils auront le temps de faire la route et de césariser en urgence. Sinon, il risque de mourir, oui. Le siège lui laisse plus de chance.
Putain, vaut mieux être caissière, s'exclame Julie.
Ça dépend pourquoi.
Et maintenant ?
Maintenant.
Maintenant, vous allez faire quoi ?
Je vais attendre qu'elle me rappelle et prier.
Pfff, foutaise.
De prier ?
Oui.
Je n'ai pas dit que j'allais égrener un chapelet en récitant des « Je vous salue Marie » et des « Notre Père ».
Alors vous priez comment ?
Comme vous, je pense.
Je ne prie jamais.
Alors on va dire « croire ».
Croire en quoi ?
En la force qu'on a tous au fond de nous quand il est question d'une autre vie que la nôtre. Comme vous, pour votre fils. J'espère que Caroline l'aura aussi.
De croire ne suffit pas toujours.
Non, mais ça aide.
Bon bah, je vais croire avec vous.
Et elle nous entend croire à l'autre bout de la France ? S'interroge Julie sans grande conviction. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux rien faire d'autre.
Je vous avais préparé le petit déjeuner.
Je n'ai pas très faim. Je me sens impuissant. Je ne peux de nouveau rien faire.
Pourquoi de nouveau ?
Parce qu'avec Irène, je n'ai rien pu faire.
De croire ne suffit pas toujours,
conclut Julie. Elle aurait pu lui demander de préciser, poser des questions, essayer de comprendre, mais elle déteste entrer dans l'intimité des gens sans qu'ils puissent se défendre. Elle en sait quelque chose. Elle ne va quand même pas se le permettre avec les autres. S'il a vraiment envie de lui en parler, il le fera bien tout seul, sans qu'elle ait besoin de le cuisiner. 45 minutes plus tard, le téléphone de Jérôme sonne à nouveau. Il décroche instantanément. Julie et Paul, revenus entre-temps, sont accrochés à ses lèvres. « Bravo, Caroline, vous êtes géniale. L'Abgar ?»«
3 à 1 minute, 6 à 5 minutes, 8 à 10 minutes. Elle va bien. Une fille. Ils l'ont appelée Victoire. 2780 grammes. Elle n'était pas bien grosse, ça m'a aidé.
C'est quoi l'Abgar ? » demande Julie. « Une cotation pour déterminer le bien-être du bébé, » lui répond Jérôme en aparté.
« Et vous, votre Abgar ?»
reprend-il dans le téléphone à l'intention de sa remplaçante.
« 3 aussi, mais chez moi, ça ne remonte pas, » répond Caroline en s'effondrant. « J'ai cru qu'elle allait mourir. »«
Mais elle va bien. »
« Mais elle aurait pu mourir !»
sanglote-t-elle. « Mais elle va bien !» répète Jérôme calmement.
« Oui, mais c'était limite. Je sentais des ralentissements dans l'ambulance. »«
Mais elle va bien !»
« Et si elle était morte ?» poursuit la jeune femme.
« Comment va ce bébé maintenant ?»«
Elle va bien !» finit par admettre Caroline.
« Bon, et vos doigts ?»«
Ils ne vont pas bien du tout. Mon bras non plus. Ça me tire jusque dans le dos. Je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie. »
Mais un bébé va bien en échange. C'est honnête comme marché, non ?
Je sais, de quoi je me plains, hein ?
Je vais appeler un ami kiné, allez-y directement, il vous prendra entre deux patients.
Qu'est-ce qu'il pourra y faire?
Il vient de finir des travaux dans son cabinet, il doit bien avoir une scie sauteuse qui traîne encore dans un coin. Dans votre état, je ne vois que l'amputation. Mais il travaille proprement. Et puis, c'est un grand amateur de whisky. Il a une cave fournie, vous ne devriez rien sentir après une demi-bouteille. L'autre moitié servira à la désinfection du moignon.
Vous êtes d'un réconfort.
Il vous massera tellement bien le bras que vous regretterez de ne pas avoir mis les deux.
Heureusement que la patiente ne vous entend pas,
dit-elle en esquissant un sourire. Inutile de fantasmer sur lui, il est marié.
Je ne suis pas en état de fantasmer sur grand-chose, vous savez.
Même pas sur moi? J'étais quand même nue en vous répondant tout à l'heure. Allô? Reprend-il.
Arrêtez, Jérôme, vous allez me mettre mal à l'aise.
C'est pour vous faire oublier la douleur.
Appelez donc votre ami kiné, il sera plus professionnel.
Mais moins disponible.
Vous me faites des avances?
Je ne recule devant rien. Vous venez quand même de sauver un bébé d'une mort certaine, c'est assez excitant vu de l'extérieur.
Vous semblez aller mieux,
constate-t-elle.
Oui, je fais du ménage dans ma tête. Pire qu'un château hanté où les araignées viendraient de fêter Halloween. Mais j'avance pièce par pièce, je secoue les bras étendus sur les meubles. Il y a de la poussière, mais on y voit plus clair.
Je suis contente pour vous.
Dites, une dernière chose avant de raccrocher.
Oui?
La procidence remplace l'embolie pulmonaire?
Je suppose que oui, sinon vous portez vraiment la poisse. À demain.
Mais non, je ne vais plus avoir besoin de vous appeler puisque j'ai eu la grosse urgence.
C'est moi qui en ai besoin. Ça me fait du bien d'avoir des nouvelles du cabinet, de mes patients et de vous.
Vous voulez un rapport tous les soirs?
Gourmande, s'amuse Jérôme. Je ne sais pas si j'aurai la forme pour ça.
Bon, je raccroche, vous avez l'esprit mal tourné. À bientôt.
Jérôme raccroche en souriant. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas pris plaisir à ce genre de provocation.
Caroline est une très bonne cliente pour ça. Elle réagit au quart de tour. Ça s'entend dans le téléphone qu'elle pique un phare.
De quoi donner envie de poursuivre. En levant les yeux, il constate que Julie et Paul le regardent amusés.
Quoi ?
Rien ?
Répondent-ils en chœur, en quittant la pièce dans un éclat de rire. Ce bébé sauvé a mis tout le monde de bonne humeur. Il y a de quoi.
Finalement, je ne suis pas si mal dans mon supermarché. Le seul risque que je cours, c'est de casser un bocal, de faire une erreur de caisse, de tomber sur un paquet de farine entrouvert ou d'oublier un antivol. Aucune vie en jeu dans tout ça. Je n'avais jamais vraiment réfléchi à ces métiers qui ont des cœurs qui battent au bout des doigts. Jérôme a gardé son calme. Je le sentais pourtant inquiet. Il ne l'a pas montré à sa remplaçante qui, elle, l'était vraiment. Je crois que je me serais décomposée à leur place. Il faut une sacrée force de caractère pour affronter des situations pareilles. Il est plutôt bien foutu, physiquement. Le genre d'homme dont je pourrais tomber amoureuse s'il n'y avait pas ce caractère de cochon. Cela dit, il s'améliore. Je comprends mieux pourquoi Paul voulait qu'il pleure. Ça l'a libéré d'un poids qu'il portait comme le Christ sa croix. Je ne pensais pas qu'un footing puisse changer ainsi la tournure des choses. Caractère de cochon quand même, et misogyne un peu sur les bords.